Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Endurance 30. Aujourd'hui, on va parler natation. J'ai le plaisir de recevoir un des entraîneurs référence à la matière, en l'occurrence Fabrice Pellerin. Fabrice, le plus simple, c'est que tu te présentes toi-même.
Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle donc Fabrice. Je suis l'entraîneur principal d'un club du sud de la France qui s'appelle l'Olympique Nice Natation. J'en suis le responsable. Et ma foi, j'ai été entraîneur national. C'est moins le cas là sur les deux saisons qui viennent de s'écouler. Mais je suis toujours aux affaires, on va dire.
Ouais. Ok. En relation avec Loïs Robin Monaco, que je remercie parce que c'est lui qui nous a mis en contact. Donc ça m'a fait plaisir quand il me l'a dit. Je lui ai dit que j'avais jamais osé te contacter. Et du coup, c'est lui qui m'a dit, mais tu devrais inviter Fabrice. Donc je le remercie pour ça. Et on va attaquer un petit peu par la question fil rouge que je pose un petit peu à tout le monde, qui est de savoir ta définition de l'endurance en quelques mots, ça serait quoi ta propre définition?
Ma définition de l'endurance, ce serait la capacité du nageur à faire durer les qualités qui lui permettent d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, souvent l'objectif en cours. Alors, ça reste un petit peu vague tout ça, mais si je prends pour référence, pour ce qui nous anime en tout cas, que la compétition consiste pour nous à toucher devant l'adversité, au bout d'une trentaine de secondes, d'une minute, de deux minutes, selon les épreuves, comme ça, spontanément, je dirais que, plus ou moins spontanément, je dirais que l'endurance, c'est cette capacité qu'a le nageur de faire durer, de mener jusqu'à son terme l'ensemble des qualités qui vont lui permettre justement de toucher devant et pas derrière, si tel est son projet. Et dans qualité, alors après, je mettrai en un effectivement la qualité de vitesse. Ouais. Cela reste, on l'oublie parfois dans notre sport et peut-être dans d'autres sports, mais la qualité de vitesse reste la qualité, on va dire, fondamentale. Et ensuite, toutes les autres qualités, qu'elles soient dissibles ou pas, psychologiques ou pas, physiques ou pas, mécaniques, etc. Donc, c'est une sorte de maelstrom, une sorte de grosses casseroles dans laquelle on peut identifier des choses, pas toujours, mais qui sont nécessaires justement à la victoire à un moment donné. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si je réponds mal, je pense que c'est lié au fait que justement cette notion d'endurance, je pense, est une notion qui est mal saisie dans notre discipline, autour de laquelle on tourne depuis son début, finalement. Chacun a son avis, sa définition, et c'est vrai qu'il y a parfois débat, voire malaise autour de la notion d'endurance dans notre sport, qu'est la natation.
Elle est pas mal répondue, et c'est pour ça que j'aime bien poser la question, parce que selon les profils, chacun a sa propre définition, avec ses propres conceptions, son propre passif, etc. Et c'est super chouette. Et sur la vitesse, je reviens aussi sur ce que je connais plus, le ski de fond, qui est une épreuve d'endurance, et on se rend quand même bien compte que plus on avance, plus la notion de vitesse, elle est fondamentale. Parce que, par exemple, si tu analyses un peu une discipline à haut niveau,
Tout le monde est capable de tenir à une allure seuil ou moyenne, ça tient. Et les différences, elles se font de plus en plus en fait dans les sprints finaux, ou dans la capacité à accélérer dans une bosse pour faire péter un groupe. Donc, c'est vrai que cette notion de vitesse avec tout ce qu'il y a autour, c'est quand même un point commun avec tous les sports, parce qu'en fait, tous les sports, en tout cas les sports individuels, il faut aller le plus vite possible. Donc, il y a quand même toujours une notion de vitesse avec un curseur qui est plus ou moins monté. Ça m'a plu, hein, la définition sur le coup. Et pour introduire un petit peu le podcast, j'inviterai les gens, parce qu'on va pas faire un doublon, à écouter l'épisode avec Julien Vecchione de Secret d'entraîneur, qui était vraiment chouette, où notamment il y a une grosse partie sur la pédagogie, en fait, que où tu as expliqué un peu ta manière d'entraîner, ta pédagogie, etc. Donc j'inviterai les gens à aller en complément, et je vais pas te re-questionner forcément sur le sujet, même si on va y venir un petit peu, forcément savoir comment l'entraînement est organisé. Et j'ai deux, trois petits points d'introduction, parce que moi, je suis pas nageur, donc je suis content de recevoir des gens de sport que je connais pas. Je nage comme un caillou deux fois par an, en moyenne, hein, pour la fête simple. Donc pour moi, c'est de la haute intensité, sinon je coule, par exemple. Et il y a deux, trois points, en fait, que je voudrais voir avec toi. Et je pense que ça va introduire la chose. Je vais te les présenter, je te laisserai y répondre. Le premier, c'est dans ce podcast-là, tu disais justement que tu mets parfois en place des choses sans fondement scientifique, que tu en as conscience, mais que ça fonctionne parce que les athlètes se l'approprient. Et je trouve que dans la manière d'entraîner, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de mon point de vue. Et le deuxième point, on y viendra un petit peu après, mais c'est pour introduire, sur la natation, ce que j'aimerais aussi commencer par évoquer, c'est le fait que c'est un système qui est différent que dans d'autres disciplines. Je vais prendre le ski de fond, par exemple, que je connais bien. C'est un système qui est très subventionné, c'est-à-dire qu'il y a des ligues départementales, régionales, etc. Et à partir d'un certain niveau, tous les meilleurs athlètes sont regroupés avec les entraîneurs nationaux et sortent des clubs, pour la faire simple. Et la natation, de ce que j'en sais, c'est pas du tout le même système. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus déjà sur l'organisation de la natation, parce que je pense que c'est intéressant pour comprendre pas mal de choses.
Alors, pour la natation, en France, elle repose sur l'existence d'associations, principalement.
Ouais.
Je sais pas, je vais dire ça, on va dire à la louche, il y a à peu près 1000 clubs en France référencés. Et donc, ma foi, on doit notre natation française à ces associations de taille familiale ou plus importante, souvent dans des conditions qui sont minimales, précaires, hein, avec deux, trois lignes d'eau ici ou là, après les scolaires, avant le public, donc dans des conditions un petit peu, on va dire pour le coup, très amateurs. Et puis, ensuite, il y a une organisation fédérale qui, selon les cycles, selon les saisons et les projets des différents présidents, vont, on va dire, labelliser des structures. Il existe des clubs excellence qui sont comme des pôles France, on va dire.
Ouais.
Qui sont de l'ordre d'une dizaine, on va dire, en France. Et puis après, il y a pas mal de ce qu'on appelle les CAF, ce sont des centres d'accès, on va dire, à la formation. C'est quelque chose d'assez récent, mais il y a quand même pas mal de CAF. Sur la région PACA, par exemple, il y en a 7 qui sont censés être des structures dans lesquelles on forme, en fait, on détecte et on forme on va dire, la future génération de nageurs. Donc, mine de rien, ça fait quand même, en théorie, un sacré réservoir entre cette multitude de petits clubs et puis ces labels qui sont distribués. À mon goût, il y a trop, justement, de choses, en fait. On a donné un petit peu partout, parfois un peu pour faire plaisir, parfois un petit peu pour des jeux, on va dire, électoralistes. Et du coup, on observe l'existence d'un grand nombre de zones identifiées comme étant des zones haut niveau. Sauf qu'en fait, quand on y regarde de plus près, on voit qu'en fait, il y a dans chaque structure un ou deux nageurs vraiment valables éventuellement. Mais du coup, on se prive de de cette capacité à faire se rencontrer ces nageurs, cette notion de frottement dans la préparation, qui pourrait être une belle source d'émergence, en fait, elle est annihilée dans le fonctionnement, parce qu'on a distribué comme ça des labels un petit peu à droite, à gauche, et du coup, les nageurs ne bougent pas, ne se rencontrent pas et restent dans leur ligne d'eau, dans leur cadre. Voilà. Ce qu'on observe, c'est que les petits clubs, les clubs familiaux, ont toujours formé des nageurs. Les nageurs en France sont toujours globalement issus de petites structures. Et que finalement, leur survie, leur taux de survie, ensuite, quand on les fait bouger dans des structures plus importantes ou des structures labellisées, il n'est pas si important que ça. Donc, il y a une perte à un moment donné. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, la natation française, je dis aujourd'hui, mais c'est quasiment de tout temps, repose sur l'existence d'individualité. Mmh. On le voit Olympiade après Olympiade, on a un ou deux nageurs qui ramassent 2, 3, 4, 6 médailles, peut-être cet été. Et après, il n'y a rien. Il n'y a rien actuellement, il n'y a rien chez les filles. Chez les garçons, on a 1, 2, 2,5 nageurs qui peuvent ramener des médailles cet été, qui aideront peut-être un relais à gagner une 5e, une 6e ou une 7e médaille. Mais on ne peut pas parler de densité, absolument pas. Voilà. Un petit peu pour faire le... Pour dessiner le paysage de notre sport.
En fait, finalement, cette densité, alors de niveau, mais cette densité à l'entraînement par la confrontation, qu'on peut parfois, souvent, les gens parlent des Kenyans en course à pied, des Norvégiens en ski, etc. Ils vont regarder des méthodes d'entraînement, etc., etc. Mais je pense que la base d'une nation dominante dans tous les sports, c'est qu'en fait, ils se confrontent, sans se mettre la cartouche à chaque fois, mais en tout cas au quotidien, avec athlètes du même niveau, ou de très haut niveau, où ils se tirent vers le haut. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, si je comprends bien, dans la natation française. Et mon autre question, c'est que vu qu'il y a pas mal d'entités un peu individuelles, est-ce qu'il y a réellement une doctrine fédérale, ou est-ce que chaque club, club élite, on va appeler comme ça, a ses propres process d'entraînement et fait comme bon lui semble?
Bon, il n'y a pas de... Comme ça peut exister dans d'autres sports, je pense peut-être à l'aviron, où c'est, les choses sont assez centralisées, me semble-t-il. C'est vrai que nous, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a une formation qui est assez sommaire, finalement, pour décrocher son diplôme d'entraîneur. On s'appuie sur des... Bon, voilà, sur une méthodologie d'entraînement que tout le monde connaît, avec les filières physiologiques, les fréquences cardiaques, voilà. Donc, on décroche son diplôme assez aisément. Et ensuite, ma foi, ben, les entraîneurs font un peu leur tambouille comme ça dans leur coin. Il n'y a pas vraiment de surveillance, il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas de formation continue stricte et de qualité. Ce qui donne un petit peu là tout ça éventuellement, et cela reste une bonne chose, ce sont finalement nos critères de sélection. Ils sont quand même globalement réputés pour être assez exigeants. Mmh. Par exemple, pour se qualifier sur un championnat du monde, sur un championnat d'Europe ou des Jeux Olympiques, on a finalement un one shot, on a une date précise à laquelle il faut sortir le meilleur du jour. Il y a des quotas, hein, il y a deux nageurs qui partent, ou quatre par exemple par épreuve sur des championnats d'Europe. Il faut le faire l'après-midi, pas le matin. Voilà. Donc, en fait, il y a quand même, on va dire, un cadre qui est posé par les critères de sélection. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que cette contrainte-là qui est réelle en France, elle permet aux coachs de modéliser nécessairement s'ils veulent justement construire une performance avec le nageur, l'accompagner dans sa préparation vers le jour J. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, effectivement, alors moi j'apprécie beaucoup que nous soyons dans un cadre fédéral qui ne se mêle pas de tout, en fait, qui pose un cadre de contraintes et qui laisse finalement peut-être liberté à créer, à innover. De manière à ce que des coachs puissent émerger avec leur méthodologie, avec leurs convictions et des nageurs également puissent affirmer leur singularité. Ça, je trouve ça bien. Moi, je me suis construit là-dedans et j'ai beaucoup apprécié personnellement. Après, je trouve qu'il manque quand même, on manque de partage d'informations, on manque d'échanges, on manque d'occasion de débattre véritablement. Il n'y a pas beaucoup de parutions. On ne fait rien paraître en natation, vraiment. Si on veut de l'information, on va ressortir des vieux bouquins qui ont maintenant peut-être 20-25 ans. Et il n'y a pas de mise à jour, de veille scientifique. Même le service recherche et développement de la fédération, on est resté aux années 80, quoi, hein. On fait une prise de lactate, le doigt mouillé. Au sortir de l'eau, et puis après, on met le résultat dans un tiroir. Mais voilà, ça s'arrête là finalement. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et je trouve ça dommage parce que d'un côté, on a un beau potentiel justement avec, à partir des critères, cette volonté de laisser les coachs s'exprimer et pouvoir faire émerger des choses intéressantes. Et en même temps, je pense que ça mériterait aussi que soit organisé, créé, motiver des occasions de débattre, d'échanger justement sur nos problématiques, nos questionnements, nos trouvailles quand ça a lieu, d'augmenter notre capacité à faire paraître, à éditer, de manière à ce que qu'il y ait des traces. Je vais donner un exemple. Il nous manque aujourd'hui, par exemple, le suivi historique des nageurs qui sont actuellement en vitrine dans notre sport. C'est-à-dire qu'il aurait été intéressant de dire, voilà, je sais pas, moi, un Léon Marchand, un Maxime Grousset et d'autres encore, à quel moment est-ce qu'on les a identifiés? Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient 10 ans? Dans quelles conditions ils le faisaient? Est-ce qu'ils nageaient deux fois, trois fois, cinq fois par semaine? Quelle a été leur courbe de progression? Alors, il y a eu des tentatives, mais il n'y a jamais eu de suivi dans le domaine. Et donc, du coup, on ne peut s'appuyer que sur des représentations. Et on ne peut pas s'appuyer suffisamment sur un vrai historique, sur de vraies data, sur quelque chose de longitudinal. Voilà. Donc, tout reste sur des théories qui sont assez anciennes, même si elles sont encore très valables, et sur une construction empirique des choses. Voilà, sur, on va dire, la transmission de choses que l'on répète de génération en génération, sur l'entraînement, sur le volume qu'il faut faire, sur le nombre de séances qu'il faut accomplir. Rien n'a changé depuis 30 ou 40 ans. Voilà.
Et justement, ça m'amène à la première vraie question, et tu as commencé à y répondre. Ça fait un moment que tu es dans le business, enfin dans l'entraînement, depuis ça se compte en dizaines d'années. Hein, tu as connu les médailles olympiques, tu as connu pas mal de choses, sûrement tous les niveaux en tant qu'entraîneur. Et est-ce que fondamentalement, l'entraînement a évolué depuis 30 ans? Et à la fois en France et à la fois de manière générale en natation, tu sais, j'essaye qu'on a un prisme un peu large sur le coup. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que finalement c'est toujours la même chose parce que c'est nécessaire, parce que c'est culturel?
Non, non, rien n'a vraiment évolué. Alors, il y a des modes de temps à autre. Il y a des choses qui sont apparues sur la musculation, par exemple. C'est vrai que il fut un temps où on avait un petit peu de retard sur la partie musculation. Moi, quand j'ai démarré à entraîner, le langage, pour de bonnes raisons et de mauvaises raisons, c'était, enfin, le discours, c'était non, 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 pas de musculation, notamment chez les jeunes, ou parce que on risque de les blesser, ça n'est pas nécessaire, nous, dans notre activité aquatique. On va peut-être freiner on va dire leur maturation biologique. Et on a pris une bonne dizaine d'années de retard sur d'autres pays dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est rattrapé, hein, largement. Donc, ce qui a changé, c'est peut-être justement la préparation hors de l'eau. Et là encore, finalement, il y a des modes. Hein, voilà. Un peu de kettlebell, Il y a eu deux, trois machines comme ça qui viennent, qui durent 2, 3 ans et puis qui repartent dans l'oubli. Mais finalement, on reste sur du classique. Encore une fois, il y a pas mal de coachs qui s'occupent eux-mêmes dans les clubs de la musculation. Ils fonctionnent sur des représentations, ils ont lu 2, 3 bouquins. Voilà, parfois, ils font aussi très bien les choses comme ça, hein. Et dans l'eau, finalement, on fait les mêmes choses qu'il y a 30 ans, hein, le même nombre de séances d'entraînement par semaine, rapidement 2 fois par jour, des séances de 1h30 à 2 heures, plutôt 2 heures d'ailleurs. Voilà, un kilométrage qui fait 5, 6, 7 km en moyenne, chez la population adulte, et même enfant parfois. Et puis des séries qui se ressemblent, hein, voilà, 10 fois 200 mètres, 30 fois 100, voilà. Donc finalement, et puis on va parler de seuil aérobie, on va parler de travail anaérobie lactique, d'allure de course ou pas. Enfin bref, les mêmes choses aujourd'hui sont utilisées, sont dites qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Donc je pense que rien n'a évolué en fait. Hein, voilà. Néanmoins, les performances des nageurs évoluent. Pour des raisons qui ne sont peut-être pas tant liées à la méthodologie que ça, mais plus au fait que par observation, aujourd'hui, par mondialisation, c'est vrai qu'il est facile aujourd'hui de s'imprégner, de déclencher des phénomènes de mimétisme ben, par observation, de vidéos, de photos. De retransmission télévisée ou simplement de lecture, de performance même brute. Lire un chiffre, ça génère des choses dans l'imagerie interne chez le nageur, chez les coachs, et qui font qu'aujourd'hui, une fois qu'on a conscientisé que l'être humain était capable de nager à telle allure, je pense qu'il y a des nageurs qui déclenchent eux-mêmes spontanément cette possibilité-là. Donc des portes subtiles s'ouvrent dans l'inconscient de chacun. Et je pense que c'est à cela avant tout que l'on doit la progression de notre natation quand elle se produit, mais un peu moins sur notre capacité à innover dans la préparation des athlètes et dans leur détection aussi.
C'est vrai que la natation, hormis la période combinaison, mais le matériel a très peu d'impact, hormis quand il y a eu cette période-là, mais de manière générale par rapport à sûrement 30 ans en arrière, il y a un maillot, un bonnet, etc. Donc c'est très comparable en termes peut-être de performance. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi cette dimension culturelle où les gens ont peut-être plus accès à l'information. Ils disent, lui, il est capable de faire ça. Il est capable de nager à telle vitesse, ou il est capable, j'en sais rien, peut-être d'enquiller tel volume, de faire peu importe des choses comme ça. Et finalement, c'est plus la barrière mentale que physiologique qui se brise un petit peu par rapport à ça, avec un cercle vertueux qui est donné par l'accès à l'information générale, si je résume un petit peu. Alors que l'entraînement n'a pas évolué tant que ça. Et mon autre question sur ça, c'est toute la subtilité, et c'est pour ça que l'entraînement est passionnant. Est-ce qu'il faut réinventer la roue, ou est-ce que finalement, de toute façon, c'est nécessaire, on est obligé de passer par là et on peut retourner le problème dans tous les sens, il y a des petits effets de mode, mais on en revient quand même au cœur du problème qui avait déjà été identifié il y a 30 ans en arrière. C'est un peu des questions qu'on se pose toujours, hein.
Alors, j'ai un exemple concret. On a vécu un épisode dans notre sport bon, qui était à la fois pénible et en même temps c'était une source d'apprentissage phénoménale il y a quelques années. Donc, on fait leur apparition dans notre sport les combinaisons. C'est-à-dire que, bon, voilà, on nage en maillot et puis à un moment donné, on a mis des combinaisons. Et puis à un moment donné, quelqu'un s'est dit, tiens, ben, si on mettait des combinaisons en polyuréthane, en néoprène, et si on mettait 2 combinaisons, etc., etc., on a recouvert le corps de plus en plus. Et du coup, on a vu péter un petit peu à droite à gauche des records du monde et les nageurs de tout niveau finalement, hein, ont vu leur performance vraiment augmenter de façon considérable. Tant et si bien que finalement, tout le monde s'est dit, bon, là, ça va un petit peu trop loin, il faut qu'on réglemente tout cela, parce que tout le monde n'était pas, on va dire, soigné à la même enseigne. Il y avait une différence entre celui qui avait la possibilité de mettre la main sur une combinaison faite sur mesure, avec un max de néoprène dedans, et puis voilà, celui qui ne pouvait pas débourser 300, 400, 500 euros dans une combinaison, et finalement bah, aller à Decathlon pour prendre le tissu le plus simple. Donc on a un petit peu réglementé ça, et on est revenu en arrière après, en termes de matériaux et de formes de combinaison. Sauf qu'en fait, au moment où on a mis ce matériel-là, on a vu les performances exploser, et on s'est dit, bon, ben là, c'est mort. Quand on va enlever ce matériel-là, ben, on va revenir 3-4 secondes derrière sur 200, 8 secondes derrière sur 400, etc. etc. Sauf que très rapidement, ces performances ont été rattrapées. C'est-à-dire que même à nouveau, en enlevant le matériel et en reprenant le chemin des entraînements, rapidement, en quelques mois, ces performances-là, aujourd'hui, ont quasiment toutes été effacées dans le plus simple appareil, on va dire, presque. Donc, en fait, c'est bien. Il est bien une question de culture, là. Il est bien une question de. Comment dire, on a observé une chose qui était possible, et du coup, on a voulu, les nageurs en premier, bien sûr, finalement, regoûter à cette possibilité-là. Et du coup, les nageurs ont retrouvé le chemin de la performance qui avait été effectuée avec le matériel, sans ce matériel-là. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment, finalement, alors c'était pénible sur le moment parce qu'on ne maîtrisait plus rien, mais avec le recul, c'est une formidable démonstration de ce qu'est capable de faire l'être humain. Il a construit la possibilité d'un monde, finalement. Ce qui répond partiellement à ta question, c'est-à-dire que je crois que la force réelle, elle est dans la capacité des individus à désirer d'abord. Il y a un acte de foi derrière tout cela, c'est-à-dire à se dire, voilà, il y a ça, j'en ai envie. Je le pense possible pour moi, et si ça ne l'est pas, je vais le rendre possible d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, à trouver le chemin, un chemin intime, bien souvent, qui permet de réaliser la haute performance, ou une meilleure performance, tout simplement. Et ça, quelle que soit la méthodologie que l'on a utilisée, quel que soit le coach que l'on a, quel que soit l'environnement dans lequel on s'exerce. Voilà, donc je crois beaucoup à cette puissance-là, à l'histoire que nous racontent les athlètes finalement dans leur cheminement plus qu'à autre chose.
Le sens qu'ils vont donner et qu'on va donner à ce qu'on fait. Et sur le matériel, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, et je pense qu'il faut, dans le sport de haut niveau, en tout cas quand on cherche la haute performance, c'est pas toujours équitable. Et toi, t'as mis le doigt sur ce qui s'était passé avant. Tout le monde n'y avait pas forcément accès. Et moi, j'ai connu ça dans le ski. Hein, on va prendre l'exemple de combinaison pour le saut à ski. Des nations phares qui ont deux couturiers à l'année, des trentaines de combinaisons dans la saison, quand des plus petites nations. Même si la France, on n'était pas à plaindre, c'est pas ça, mais on a une couturière qui se déplace pas, il y a beaucoup moins d'accès, etc. C'était pareil sur le fartage, sur plein de choses comme ça. Et tu peux pas, pour moi, tu peux pas reprocher, tant que la législation le permet, la course en avant vers la performance matérielle, parce que dans le sport de haut niveau, ton objectif, c'est d'être le plus performant possible, en respectant les règles, hein, évidemment. Donc, en fait, ça court dans le sens, et il y a un débat en ce moment qui n'a pas lieu d'être en course à pied sur les chaussures carbone. Tant que c'est autorisé, l'entraînement va évoluer en conséquence. De toute façon, ça permet de plus s'entraîner, de s'entraîner plus vite. Mais quand l'enjeu, c'est une médaille olympique, une médaille mondiale, tout ce que tu veux, tous les moyens possibles à utiliser, ils vont être exploités au maximum. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça. La performance de haut niveau, c'est produire le plus haut niveau de performance possible. Et ce n'est pas le monde des bisounours non plus. Et c'était bien aussi, je pense, que tu fasses cette parenthèse dessus. Et sur l'entraînement, justement, ça, j'ai bien aimé ta réponse, parce que tu n'as pas sorti de méthodologie toute faite d'entraînement. Tu as plutôt donné une approche globale de la discipline et de la performance, en fait, par les gens. Et par contre, pour recentrer un petit peu sur l'entraînement pur ou pas. Une question que je me pose beaucoup et que beaucoup de gens se posent, pourquoi nager autant de kilomètres et autant de temps pour une épreuve qui va durer entre 30 secondes et 2 minutes? Et ça, la culture du volume, elle est énorme en natation, j'ai l'impression. On l'a beaucoup en ski, hein. Franchement, je ne suis pas choqué, les volumes ne me choquent pas de ce que font les nageurs. Mais par contre, pour une discipline aussi courte, pourquoi il y a autant de temps d'entraînement? Et j'ai même envie de te dire, si je comprends un peu la discipline, c'est du temps d'entraînement effectif. Ce n'est pas 2 heures dans la piscine et finalement, je fais un sprint de 10 secondes et je récupère 3 minutes. Ça nage, ça nage, ça nage. Et quelle est ton explication par rapport à ça?
Là, c'est vraiment un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau thématique dans notre sport. Et je pense qu'il y a, il y a deux facettes à cela. La première, c'est que l'être humain, l'homme, est sur les 5 ou 6 000 espèces mammifères qui existent sur Terre, et peut-être le seul avec le grand singe à ne pas savoir nager de façon innée. Alors, il sait le faire sur les toutes premières semaines de son existence. Si on jette un nourrisson dans l'eau, voilà, qui a 1 mois ou 2 mois, j'encourage pas à le faire, hein, mais quand on le fait, finalement, il a les yeux ouverts, et puis il avance gaiement, il se débrouille. Alors, il va falloir à un moment donné le sortir pour qu'il puisse respirer, mais en tout cas, la question n'est pas posée. Est-ce que je sais nager? Est-ce que je ne sais pas nager, en fait? Il nage tout simplement. Et puis à un moment donné, ça se perd tout ça. Ça se perd rapidement. Et encore une fois, on est probablement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr de ma, comment dire, de mon affirmation. On est la seule espèce mammifère à oublier qu'on sait nager à un moment donné. Et donc, ma foi, quand on retourne dans l'eau, on a le chemin inverse à faire. C'est-à-dire qu'il faut désapprendre notre expérience de terrien, et il faut tout reconstruire, tout ce dont l'élément liquide, en fait, le monde aquatique nécessite pour pouvoir s'y déplacer, s'y mouvoir. Ma foi, c'est toute une reconstruction, et elle est pénible pour l'homme. Donc, le faire sans y passer un minimum de temps, effectivement, c'est peut-être impossible pour nous. Ce qui est fascinant, c'est que si on jette un troupeau de vaches dans l'eau, même si elles n'ont jamais vu l'eau de leur vie, elles vont savoir nager très probablement. Ce qui est fascinant, plus encore, c'est qu'elles vont le faire avec le même style. Il n'y a pas une vache qui va avoir un style, l'autre un autre style, l'autre les bras tendus, l'autre va passer sur le dos, etc., etc. Alors qu'effectivement, quand on sait un petit peu nager chez l'être humain, on voit qu'il y a quasiment, il y a des traits communs, hein, bien évidemment, qui sont liés à notre morphologie, mais à notre propre biomécanique. Mais il y a quasiment autant de styles de nage qu'il y a d'individus sur Terre. Quand on observe les choses de façon vraiment très pointue, très subtile, en liaison avec notre morphologie, encore une fois, notre densité, à notre, comment dire, à notre mobilité, etc., etc. Donc, je pense que passer un certain temps dans l'eau pour pouvoir s'y sentir à l'aise et y évoluer avec des vitesses de plus en plus grandes nécessite qu'on y passe du temps. Voilà, ça c'est, je pense que c'est la première partie de la réponse, l'une des parties les plus importantes. Et allô?
Ouais, Fabrice.
Oui?
Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ça a bugué. Bon, j'ai toujours l'enregistrement qui est en cours, a priori, donc c'est bon.
D'accord.
Je sais pas ce qu'il y a eu. Du coup, je ferai un montage.
Tu n'as pas perdu l'audio?
Non, non, j'ai toujours l'enregistrement.
D'accord.
Ça a l'air d'être bon. Attends, je vais le vérifier. Cet appel enregistré, écoute, ça a l'air d'être tout bon, ça va me le ressortir. Du coup, je te propose de reprendre ce que tu disais en rapport avec notre morphologie. Comme ça, on refait la phrase, moi je l'ai noté, et puis voilà.
À quel point tu veux que je reprenne précisément?
Je pense que tu disais, tu avais dit, il y a différentes façons de nager en rapport avec notre morphologie.
Ouais. Mmh.
Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a coupé. Donc, à la rigueur, reprendre, il y a différentes façons de nager en rapport avec notre morphologie. Et on reprend dans 3, 2, 1.
Et donc, effectivement, quand on observe de façon précise et subtile les nageurs dans l'eau, on observe qu'il n'y a pas un nageur qui nage comme un autre. Il y a quasiment autant de nages qu'il y a d'individus. Parce que cela est à mettre en relation avec la morphologie de chacun, sa densité, sa taille, sa mobilité, sa souplesse. Et donc voilà, donc effectivement, je pense que passer du temps dans l'eau est peut-être un passage obligé pour l'homme. Pour faire une sorte de petite métaphore qui me vient, c'est un très bon acteur sera capable de nous faire croire l'espace d'un instant qu'il est un très bon pianiste. Par exemple, si on regarde, je ne sais pas si je peux me permettre autant de digressions, mais si on regarde Ryan Gosling dans La La Land, voilà, il a fait 2 mois de piano intensif et voilà, on se laisse piéger, quoi. Le gars, c'est un jazzman averti. Quand on regarde Tom Hanks dans Forrest Gump, qui parcourt des kilomètres en courant, je trouve que c'est bien fait, on y croit. On a l'impression que ce gars est un coureur de fond et qu'il a arpenté la plupart des chemins terrestres. Il a même des tics de course, on voit, il compense, il a un bras dans une position. Ça fait vraiment penser à des gars qui parcourent des kilomètres et des kilomètres. Par contre, le meilleur acteur au monde pourra difficilement nous faire croire que c'est un nageur de haut niveau. Même s'il s'entraîne, même avec le meilleur coach au monde et qu'il y passe du temps, on verra assez rapidement que bon, le gars, il a appris à nager, mais ce n'est pas un expert. Il n'est pas à l'aise comme peut l'être un Michael Phelps ou un autre nageur, même de niveau moyen, de niveau national. Voilà. Donc, passer du temps dans l'eau, je pense que c'est le passage obligé pour l'être humain. Après, le revers de cette médaille-là, c'est que je trouve que on démarre peut-être un peu trop tôt. Et là, on revient sur peut-être l'absence de réelle formation, de réelle connaissance au niveau physiologique, au niveau de notre activité, notamment dans la formation des coachs. Il m'arrive très souvent de voir des gamins de 10, 11 ans déjà nager 2 fois par jour à raison de 2 heures par jour, de 2 heures par séance, ce qui est énorme en fait. Alors effectivement, tout cela est accompagné quand ils sont jeunes d'amélioration de leur performance. Mais en fait, on met en corrélation un peu rapidement leur progrès en natation avec le temps qu'ils ont passé hebdomadaire à s'entraîner. Sauf qu'on oublie que c'est peut-être au moins autant dû au fait que, comme ils sont jeunes, eh bien, ils connaissent des poussées organiques qui sont fortes, et que tout leur système fonctionnel est en grande évolution. Et peut-être que juste ça, en accompagnant cela d'1h30 d'entraînement par jour, ma foi, ça suffirait à observer les mêmes résultats. Mais personne ne se donne les moyens de vérifier. Personne ne s'autorise à dire, voilà, je sais pas, moi, j'habite à Nice, par exemple, à Cannes, si on nage 2 fois par jour, quand on a 12 ans, bah, moi, je vais oser entraîner les jeunes dont j'ai la charge seulement 1 fois par jour. Parce qu'on a peur d'être moins bon. Et donc, je trouve qu'on est trop négligent là-dessus. Considérer qu'il faut peut-être passer du temps à un moment donné pour pouvoir rendre familier cet environnement aquatique, ok. Par contre, je pense qu'on pourrait faire évoluer les choses de façon pertinente dans l'intérêt des nageurs et de leur longévité, par exemple, si on repensait, on questionnait vraiment la méthodologie de l'entraînement chez les plus jeunes. Alors, on applique l'entraînement des adultes chez de très jeunes enfants. Et ça, c'est dommage. Et il y a, au-delà des croyances et de la représentation que l'on peut avoir de notre activité, aussi des contraintes qui sont là, des contraintes plus politiques, on va dire. C'est-à-dire qu'il est difficile pour un club d'obtenir des créneaux d'entraînement dans les piscines, parce que, contrairement à d'autres sports, une piscine, c'est partagé par un club sportif, par la petite mamie qui vient faire son aquagym, par les scolaires qui viennent apprendre à nager, par les pompiers qui viennent faire leur sauvetage le soir à 22h, par le water-polo qui a besoin de la natation, de la piscine, par le plongeon qui a besoin d'une piscine, par la natation synchronisée qui a aussi besoin d'une piscine. En fait, on partage notre aire de jeu avec une multitude d'autres activités, sportives ou moins sportives. Et du coup, quand on a deux lignes d'eau pendant 2 heures, on ne les lâche pas, quoi. Et je pense que ça, c'est l'une des raisons pour laquelle personne ne veut renoncer au créneau qu'il a durement, difficilement gagné auprès d'une mairie, voilà. Et donc, on ne se donne pas les chances d'essayer autre chose, notamment chez les jeunes. Pourquoi ne pas passer de 8 séances hebdomadaires quand on a 11 ans à 4, et puis il y en a une que l'on va faire sur terre, on va jouer au basket, et puis l'autre on va faire du trampoline, ça nous apprendra peut-être des choses aussi en termes d'organisation. Bref, personne ne s'autorise ou ne peut s'autoriser à faire cela pour les raisons que j'ai décrites. Voilà. Et ça, c'est assez propre à notre sport, je trouve.
Ouais, les raisons pragmatiques en fait de créneau de piscine, c'est vrai que moi qui connais pas la discipline, j'avais pas du tout pensé. Et c'est marrant que tu aies parlé, on applique l'entraînement des adultes aux enfants, et ça c'est quelque chose, je pense, qui est commun à pas mal de sports individuels. Le ski, moi j'ai bien connu ça, et on connaît encore malheureusement ça quand on observe, avec soit faire beaucoup d'heures, soit faire beaucoup de ski à roulette très jeune, et un mimétisme à l'été en entraînement. Moi j'ai déjà vu dire qu'il faut faire des seuils, parce que les grands font des seuils, mais faire des seuils à 13 ans, pour qui, pourquoi, comment, il n'y a pas d'intérêt. Et ce mimétisme de ce qui se fait à haut niveau, je pense que c'est pas le chemin de construction pour amener vers le haut niveau finalement. C'est déjà une pratique, un entraînement qui laisse peu de marge de manœuvre en fait pour un petit peu plus tard. Et dans la formation d'un jeune, c'est sûr qu'il va manquer quelque chose, et ça va m'amener à la question suivante. Parce que tu en parlais chez les jeunes, mais c'est peut-être valable aussi chez les adultes. Hein. On parle souvent d'entraînement spécifique et non spécifique. D'autant que la natation, finalement, si je résume bien, tu l'as bien dit, il y a un grand oublié des débats dans tous les sports, hein, c'est la technique. C'est un sport qui est éminemment technique, je pense, ce qui fait que, vu que c'est pas un environnement naturel pour les gens, on y passe du temps. Et quelque part, est-ce qu'il existe des entraînements ou des modalités d'entraînement qui peuvent venir en support à la natation pour faire franchir des paliers en natation en termes de motricité, en termes de force, en termes de plein de choses différentes? Ou est-ce que finalement, le cœur du problème, il est contente-toi de nager, il n'y a rien de plus spécifique que la natation, et on fait un peu de renfort à côté. Tu vois, je schématise un petit peu, mais c'est pour avoir ton point de vue là-dessus.
Eh bien, encore une fois, il y a les deux. C'est vrai que on est en pleine dualité, mais constamment dans notre sport. C'est-à-dire que quand on discute avec des coachs, là, comme ça, entre nous, très souvent, il revient le fait que on a observé dans nos groupes des jeunes débarqués qui démarraient peut-être avec 1 ou 2 ans de retard, entre guillemets, par rapport au reste du groupe, et qui très rapidement se retrouvaient au même niveau ou même se retrouvaient finalement leader dans un groupe. Et avant cela, bon, ils avaient vaguement appris à nager, mais surtout ils avaient fait un peu de danse, ils avaient fait de l'athlétisme, voire un peu de musique. Et souvent, ce sont ces nageurs-là chez lesquels on reconnaît un talent, entre guillemets. Donc, il y a bien quand même ça vient un peu nous titiller, quoi, cette idée que c'est quand même peut-être hors de l'eau que l'on apprend les fondamentaux qui vont nous servir dans l'eau aussi. Ce qu'on apprend en danse, ce qu'on apprend, encore une fois, en athlétisme même, ce qu'on apprend peut-être même en jouant de la musique. Néanmoins, très rapidement, on est rattrapé par notre culture, voilà, ma foi, notre inconscient collectif. On dit, bon, ben oui, mais à un moment donné, tu vas arrêter un petit peu tous les autres sports et il va falloir passer un peu plus de temps dans l'eau. Il y a des termes que j'entends très souvent dans notre sport, c'est il faut avoir la caisse. Voilà, hein, pour aller vite, à un moment donné, il faut avoir la caisse. Et en fait, quel est le lien entre avoir la caisse, déjà, qu'est-ce que ça veut dire avoir la caisse? Et ensuite, quel lien on peut faire entre avoir la caisse et aller vite à un moment donné? Sachant qu'aller vite dans l'eau, c'est 50 mètres, c'est 30 secondes, c'est j'arrondis, hein. C'est
Oui.
une minute grand maximum sur un 100 mètres. Voilà. Pour nous, un nageur de demi-fond, c'est un nageur qui fait du 800 et du 1500. C'est-à-dire une épreuve qui dure moins d'un quart d'heure, quoi. Si on dit ça à un triathlète, par exemple, qui va faire l'Ironman de Nice, ben, je pense il ne va pas du tout comprendre de quoi on parle, quoi. Qu'un nageur d'endurance, qu'un nageur de fond, de demi-fond, c'est un effort qui va durer moins de 15 minutes. Donc, on touche là du doigt le fait que on fonctionne avant tout avec des représentations et une culture ambiante, ce que l'on a du mal à questionner, à remettre en question, effectivement. Voilà ce que je peux en dire par rapport à ta question, quoi.
Ouais, mais tu vois, tu dis, je me suis souvent fait la réflexion au-delà de la variété des sports en fait qui développent la motricité générale, etc., qui peut être utile plus tard. Je pense qu'il y a quelque chose aussi en faisant des sports d'hiver et notamment chez les jeunes. Après, chez les plus âgés, je sais pas, j'ai pas la réponse. Enfin, même chez les jeunes, je l'ai pas, mais j'ai une piste de réflexion. C'est qu'en fait, les variétés de situations. Ça développe aussi la capacité à s'adapter et à apprendre. C'est-à-dire que quand on a des sports très techniques, peut-être que si on a une variété de sports quand on était plus jeune, à chaque fois on a dû apprendre des nouveaux gestes, faire face à des nouvelles situations, développer de nouvelles compétences, etc., etc. Donc en fait, le cerveau, si je résume, et c'est que ma pensée, hein, il sait faire, il sait s'adapter, il sait apprendre de nouvelles choses. Et plus les situations étaient variées, plus on a entraîné sa capacité à apprendre de nouvelles choses. Et peut-être que plus tard, quand on se met pleinement à une discipline, eh ben, ce qui peut faire la différence, c'est que, je vais donner un exemple, il est très tiré par les cheveux, parce que je connais rien à la natation, mais si tu vas lui demander de bouger un petit peu son orientation de coude ou de main, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois ce que je veux dire, de modifier un peu sa technique, eh ben, peut-être que c'est plus facile pour une personne qui a été formée à s'adapter à son environnement de plein de manières de le faire que quelqu'un qui a été dans un moule depuis tout jeune. C'est un peu la vie que j'en ai en fait.
Oui, je partage ton point de vue. C'est vrai que parfois on demande à des nageurs de se corriger techniquement. En utilisant ben, un lexique, hein, voilà, on va dire relâche-toi, ou alors on va dire gaine-toi. Et en fait, il n'est pas certain que le nageur ait la bonne compréhension de. Entre le message que l'on émet, celui qui est reçu et interprété, il y a peut-être un gap qui est super important. Et comme tu le dis, si on a fait un autre sport, si on a fait du trampoline, si on a fait de la danse, de la GRS, peu importe, et qu'on utilise le même mot, gaine-toi, aligne-toi, fais une pointe de pied pour une danseuse, là, je pense que effectivement, lui qui a vécu cela, celui qui est passé par cet apprentissage-là, saura peut-être davantage ce que cela dit, quoi. Ce sera plus évocateur. Donc, je pense qu'il y a une richesse qui pourrait être vraiment très utile, vraiment très utile dans notre sport, notamment dans la formation des plus jeunes, et encore une fois à laquelle on renonce pour plein de raisons, des raisons de contraintes inhérentes au fait qu'il ne faut pas lâcher notre bassin et au fait aussi que y a des peurs, quoi. Hein. S'autoriser cela, c'est prendre un petit risque, et ce risque-là, ma foi, il y en a peu qui sont prêts à le prendre. Je me mets dans le lot aussi. Hein. Moi aussi, j'ai eu des désirs et des idées d'innovation. Mais bon, je me suis quand même vachement restreint dans ma capacité à sortir du sentier dans certains domaines. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est rassurant de parler d'endurance, de parler de temps passé dans l'eau. Et voilà. Et puis, tant qu'on a des nageurs qui émergent, il suffit d'un nageur dans un groupe, hein, qui prenne une médaille, une belle médaille à un moment donné, pour que finalement, notre thèse reste accréditée. Hein. On passe du temps dans l'eau et on avale les bornes, et voilà, ça paye, quoi. Et ceux qui n'y sont pas parvenus, ma foi, ils n'étaient pas assez talentueux, ou ils ne sont pas allés n'ont pas respecté suffisamment les consignes qu'on leur a données, quoi.
Mais je nuance un peu un point de ce que je disais aussi, c'est que moi, avec l'équipe de France, j'ai connu des athlètes qui étaient ultra forts en préparation physique au sens large, en gym, en musculation, enfin, qui était très, très complet en tant qu'athlète, par exemple. Et sur la discipline que j'avais, c'était soit ski et ski de fond. Et sur le papier, toutes leurs qualités physiques faisaient dire qu'ils allaient être très forts. Moi, j'avais la relève. Et finalement, en fait, quand ils se retrouvaient en situation sur un tremplin de saut à ski ou sur des skis de fond, ben, ce n'étaient pas les meilleurs. Et loin de là. Et c'est pour ça que c'est quand même très fin pour essayer d'amener à de la performance de haut niveau, parce que on peut se dire, bah oui, ça peut être bien de varier les sports, comme ça l'athlète est complet, il sait apprendre et tout, mais par exemple, c'est pas suffisant. Et il n'y a pas forcément de vérité par rapport à ça. Et je me suis, il y a un peu cette retenue que je peux avoir dans mes propos, hein, par rapport à ça, parce que moi, je suis rarement sûr de quelque chose, et encore moins quand on parle de haut niveau. C'est plutôt des tendances, en disant peut-être que si on essaye, ça peut amener ça, mais on n'est jamais sûr de rien, finalement.
Non, jamais. Et c'est vrai que moi-même, je suis très critique sur la façon dont aujourd'hui on forme les jeunes, et je pense qu'on pourrait faire autrement, justement en termes de gestion de volume, de richesse d'apprentissage, telle qu'elle peut être apportée par peut-être l'expérience d'autres disciplines. Néanmoins, je reste quand même persuadé, pour la raison dont j'ai parlé, liée au fait qu'effectivement, l'homme perd rapidement cette capacité de nager, donc il faut qu'il l'acquiert, et donc il passe du temps pour ça. On ne peut pas se défaire d'un certain temps de pratique dans l'eau. Voilà. Après, on peut augmenter la qualité de ce qu'on fait dans l'eau, mais c'est vrai qu'il faut, il faut quand même s'y plier. Voilà.
Ouais. Ouais. Mais justement, en termes de volume et de, on va dire, de fréquence passée dans l'eau, peut-être pas forcément de temps. Tu t'évoquais le modèle américain, par exemple, où il y a beaucoup de compétitions, par rapport au modèle français, où il y a beaucoup d'entraînement et très peu de compétitions. Alors, il y a des raisons d'organisation, de culture, il y a plein de raisons à cela. Mais est-ce que, par exemple, finalement, est-ce que chez les Américains, leur volume annuel est beaucoup plus faible que chez les Français? C'est très schématique, hein, ce que je demande, mais est-ce que toi, finalement, ils n'ont pas, vu qu'ils récupèrent entre les compétitions, etc., est-ce qu'ils ont un volume qui est moins important, finalement, mais une confrontation à la compétition qui fait que ça fonctionne, ou est-ce que le volume, en fait, à la fin, quelle que soit la méthode, c'est sensiblement le même d'une nation à l'autre et d'un système à l'autre?
Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de d'universalisation, de mondialisation de la méthodologie de l'entraînement un peu partout. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de différence monumentale d'un pays à un autre. On sait plus ou moins ce que font les autres. Les autres savent ce que l'on fait. Et finalement, une sorte de nivellement autour d'un consensus d'entraînement. Ceci étant dit, à l'intérieur maintenant du temps passé dans l'eau, je pense qu'effectivement, il y a des différences qui peuvent être très importantes, bien plus par contre que l'on ne pourrait le soupçonner. Quand dans un club, même si c'est un Pôle France où il y a 6-8 nageurs par exemple, avec un niveau hétérogène, où on part pour 6 ou 7 km d'entraînement pendant 2 heures, à faire de l'aéro ou travail au seuil, ma foi, je ne sais pas si tout va être vraiment utile, si chaque mètre parcouru dans cette séance-là va être utile. Et j'aurais plutôt tendance à penser que pas forcément. Voilà. Par contre, quand on est dans une université américaine et qu'on plonge, comme ça peut arriver dans des grosses universités, à 50 le matin de bonne heure, qu'il y a des groupes de spécialités, qu'il y a sur les 50 statistiquement forcément un mec qui va toucher les pieds ou qui va être juste devant et c'est toi qui vas avoir envie de lui toucher les pieds et que ben voilà, tu sais que dans le week-end qui vient, et ben t'as une compétition par équipe et il faut gagner une place, il y a les relais, etc., etc. Je pense que l'énergie n'est pas du tout la même. Je pense que du coup, le sens que tu mets à ce que tu es en train de faire au moment où tu le fais n'est pas du tout le même. Voilà. Quand tu reviens maintenant, je reviens en France avec ces 6-7 nageurs là, dans ton bassin à Béthune ou voilà, j'ai rien contre Béthune, mais bon, je prends un exemple un peu caricatural, et qu'il fait encore nuit et que tu sais que ta prochaine compète elle est dans 2 mois et qu'il n'y a rien de collectif, voilà, tu seras tout seul face à ton truc. C'est pas du tout la même façon de vivre ta discipline et ton sport, quoi. Donc, autant sur le temps que l'on passe dans un bassin, dans une piscine, aujourd'hui peut-être à peu près le même partout, autant l'intention que l'on y met, l'aspect social qui est existant, les désirs que ça crée, la valorisation que ça génère, parce que dans un collectif, en fait, où tout le monde a sa place, ma foi, par définition, tu peux trouver ton poste là-dedans et tu te dis, voilà, bon, moi, je suis à 5 secondes derrière le meilleur, mais si je gagne un dixième, dans le relais, ça va quand même compter pour les copains. Du coup, ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas du tout la même vie, en fait. Et je pense que sur le contenu, du coup, et sur l'approche culturelle des choses, de la compétition, le rapport à la compétition, le rapport à la communauté, il est très différent, il est, je pense, beaucoup plus puissant dans ces pays-là que chez nous, quoi. Et c'est là-dessus que l'on a vraiment du mal à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que nous, pour créer une sorte de compétition par équipe, un système où plutôt que de faire une compétition tous les 2 mois, une compétition qui va durer 4 jours et dans laquelle tu vas nager une fois 30 secondes, par exemple, m'a proposé peut-être un autre format de compétition. Tu dis, voilà, maintenant, on va nager peut-être toutes les 2 semaines, mais c'est une compétition qui durera 2 ou 3 heures. On fait plein de courses. C'est plutôt des relais plutôt que des courses individuelles. On a essayé de proposer. Il y a des collectifs de coachs qui ont essayé de proposer comme ça une sorte de rénovation, mais on ne lâche pas nos habitudes, quoi. Voilà, et ça, je pense que ça nous pèse. Ça nous cause un préjudice considérable. Ouais.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. La confrontation sur des sports comme ça, c'est intéressant. Mais je prends souvent l'exemple, même quelqu'un qui prépare un trail qui est long. En fait, un trail, par exemple, c'est une course face à lui-même, de toute façon. Et ben, tu vas prendre 1 heure de course à pied, comme 1 heure dans un bassin, comme 1 heure de tout ce que tu veux, entre la personne qui l'a fait mécaniquement, robotiquement, en veillant à ne pas dépasser sa zone 2, à la pulsation près, et l'autre personne en fait qui va jouer avec le terrain, qui va vivre sa séance, qui va travailler les relances, c'est pareil en ski, en course à pied et tout, bah, finalement 1 heure passée à basse intensité, au sens large, c'est la même cible, entre la personne qui l'a fait de manière robotique et la personne qui a vécu sa séance, qui a joué avec ça, bah, c'est pas la même chose, et c'est pas le même sens que tu donnes à la séance, et je suis presque sûr que c'est pas les mêmes effets, même si physiologiquement tu es dans les mêmes zones. Tu vois, c'est un petit peu où je veux en venir par rapport à ça.
Parfait. Je pense que vraiment, la chose la plus importante, c'est de définir l'entraînement. C'est-à-dire vraiment, c'est quoi s'entraîner? C'est-à-dire que, globalement, les coachs français en natation, c'est s'entraîner, c'est travailler, je ne sais pas moi, son seuil lactique, c'est travailler sa vitesse absolue, c'est être capable de nager à telle allure pendant telle durée. Donc en fait, on est très centré sur des notions physiologiques, biologiques. Mais on prépare quoi comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, si on pense à la compétition avant tout, sur le dispositif, là, de la réflexion, on se dit, bon, en fait, en vue d'une compétition, s'entraîner, ce serait apprendre à doubler quelqu'un.
Voilà. Ouais.
Ou alors apprendre à gérer ses émotions, sa prise de décision au moment où quelqu'un va nous doubler, par exemple. Là, on ne parle pas de physiologie, on ne parle pas de biomécanique, on ne parle pas de muscles, on parle de, d'intention, de prise de décision, de gestion émotionnelle, de technique aussi. Comment on fait pour passer d'une vitesse à une autre, pour pouvoir doubler quelqu'un, pour éviter de se faire rattraper, etc. Et donc, à partir de là, se dessine un environnement. C'est-à-dire, effectivement, quand on a 6 nageurs dans l'eau, de niveaux assez différents, et qu'on leur demande de nager avec une fréquence cardiaque, je sais pas, de 120, par exemple, bon, ben, personne ne va se doubler, quoi. Chacun est dans son couloir et va simplement faire des allers-retours à la fréquence cardiaque demandée, à l'allure demandée, etc. Et il n'y a aucun lien, absolument aucun lien, avec ce qui nous attend le jour J en compétition. Ce qui nous attend en compétition, c'est doubler quelqu'un ou être doublé par quelqu'un. Toucher devant, toucher derrière, voilà, ce sont des choses comme ça. Donc, si on veut remettre ça au cœur de notre préparation, ben ça implique de créer l'environnement qui va avec. Et ça implique peut-être de dire, ben, en fait, non, je ne suis pas dans l'environnement qui va me permettre de préparer ça. Ça veut dire qu'il faut changer la constitution de nos groupes, il faut changer la façon dont on répartit les nageurs en France. Il faut tout repenser, en fait. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ben, on les cite souvent d'exemple, hein, parce qu'il y a davantage cela, quoi. Il y a davantage de points communs entre le quotidien du nageur qui s'entraîne et ce qu'il va trouver en compétition. Voilà, encore une fois, quand on a 8 lignes d'eau qu'on plonge le matin de bonne heure et que ben on est 30, 40, 50, eh ben ça va se produire. Être doublé, se faire doubler. Et donc, il y a plus de choses qui sont travaillées en rapport direct avec la prochaine compétition, quoi. Donc, nous, quand on a un nageur qui, malgré tout cela, un nageur français, arrive quand même, et ça arrive, hein, à tirer son épingle du jeu en compétition internationale, c'est que le gars est vraiment bon, quoi. On en a, hein, mais forcément, il se compte sur les doigts d'une main à chaque Olympiade. On est incapable de, au-delà de ces 2-3 nageurs qui sont un peu à part, hors normes, on est incapable de créer un contingent de sportifs qui vont ben, rentrer dans des finales et jouer des podiums, quoi.
C'est l'intérieur sport avec Bob Tari, quand il était parti au Kenya, ça m'a marqué. Il était médaillé mondial sur steeple, troisième, il part au Kenya. Et le premier, ils ont soit des fartleks, soit des séances tempo, peu importe. La première séance qu'il fait avec eux, il pète. Il finit 50e de la séance parce que c'est une compète. Alors, ce n'est pas à chaque fois, mais c'est toutes les semaines, tu vois ce que je veux dire. Et puis, la deuxième séance, etc., et en 2 ou 3 semaines. Et ça m'avait marqué. Il relève son niveau pour arriver à accrocher le groupe. Mm-hmm. Et il ne faut pas me faire croire que ces données physiologiques, elles ont évolué en 2 ou 3 semaines. Mm-hmm. Et ça, c'était. Je trouve qu'en ce moment, même si je suis un grand défenseur de la basse intensité de manière générale, on en fait trop avec cette fameuse zone 2 où on met les gens dans du formol et dans un environnement aseptisé. Et la compétition, c'est jamais ça. C'est rarement un environnement aseptisé à partir du moment, même sur un environnement fermé comme la natation, il reste ouvert parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Bien sûr, je ne vais pas expliquer comment on coche la natation, hein, j'y connais rien, mais. J'ai du mal avec ça parce qu'on veut tellement, ça fait peur en fait de faire confiance à la sensation, à la confrontation, de ne pas tout maîtriser. Parce que derrière, l'entraîneur ou le scientifique ou etc., il va dire non, mais attends, là, tu ne peux pas justifier ce que tu fais. Soit à l'entraîneur, soit à l'athlète. Hein, et ça fait peur aux gens. Et je pense qu'il faut sortir de là.
Oui.
Enfin, c'est un avis. Hein.
Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Bien souvent, ce sont des limites, des craintes qui nous empêche de sortir de ce que l'on a répété pendant des décennies et ce qui a plus ou moins marché quand même. Donc, bon, ben voilà, bon, ça c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs, pas que dans le sport d'ailleurs, hein, dans la vie professionnelle. Voilà. Mais c'est vrai que ben, on est quand même bien cadenassé par tout cela. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je pense une institution comme une fédération a un rôle à ce moment-là pas sur la pas sur comment dire la dispension de contenu vraiment ou de méthodologie type, mais sur sur la création d'un environnement, d'un cadre de contraintes, notamment sur les moments de rendez-vous, quoi, sur les compétitions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les compétitions, dans leur format, dans leurs enjeux, suscitent une sorte d'adaptation, de révolution, d'innovation dans les unités d'entraînement après? Ça, c'est une belle mission fédérale. Donc, voilà. Alors, de temps en temps, y a des, encore une fois, des nageurs qui sont un peu hors normes et qui eux, arrivent à créer ces contraintes pour eux-mêmes et à se préparer de façon plus spécifique à ce qu'ils vont trouver sur leur chemin le jour de la compétition, quoi. Mais ce sont des individus qui sont isolés, qui sont rares, et voilà, qui sont précieux quand on les a entre les mains, mais qui ne sont pas légion, quoi.
En fait, si je résume un petit peu, tout le monde, mais c'est valable à tous les sports, tout le monde sait plus ou moins comment il faut s'entraîner. Il n'y a pas de méthode secrète sur les grandes lignes, sur la physio, l'organisation de l'entraînement et tout. Et ce qui peut manquer, en tout cas, ce qui peut faire franchir un palier, si je suis bien, c'est plutôt la capacité à créer un environnement et un contexte qui va faire la différence, en fait, pour être préparé à la compétition et non pas forcément être préparé à maîtriser son entraînement tout le temps. C'est plutôt à maîtriser presque l'aléatoire.
Oui, c'est cela. C'est vrai que le quotidien du nageur, c'est quelque chose de très fâté. Tout est attendu par le nageur. Il sait qu'il va arriver, il sait qu'il va avoir 1000 mètres d'échauffement, il sait qu'il va avoir la série 1, la série 2, la série 3. Il sait que comme on est mardi, ben, il va avoir une série avec une zone mixte au milieu. Il sait qu'à la fin, il y a 3 plongeons à faire. Voilà, il sait qu'il va prendre la douche, rentrer chez lui, manger, etc., etc. Il n'y a pas un moment là-dedans où en fait, il va devoir s'adapter. Il va devoir faire face à un dilemme, devoir trancher, prendre une décision, prendre la bonne ou la mauvaise, devoir s'adapter à finalement à une inconnue. L'inconnu, ça va être l'adversaire, quelqu'un qui vient et qui produit quelque chose de nouveau sous ses yeux. Donc, effectivement, cette capacité à gérer l'imprévu, à s'adapter, finalement, dans notre sport en France, c'est quelque chose que l'on rencontre bien souvent uniquement le jour J. Mais c'est un peu tard le jour J. C'est trop tard quand on arrive aux Jeux Olympiques, ma foi, de se dire, ah là, le bassin d'échauffement, il est vachement froid. Je ne m'attendais pas à ce que l'eau soit à 25. Ensuite, waouh, mais le gars que j'ai devant moi, mais il fait 2,05 m. Je n'ai jamais rencontré un énergumène pareil. Celui-là m'a l'air très doué en coulée. Bref. Il ne gère que de l'imprévu, mais il le gère après des mois passés à ne connaître que le prévu, justement. Voilà. Donc, encore une fois, la richesse de l'imprévu telle qu'elle peut être amenée par des compétitions, ou en tout cas par des derbies, je ne sais pas, par tout ce qui pourrait être entrepris pour justement préparer directement l'athlète aux échéances, ça nous manque, encore une fois. Voilà. Je prends un exemple concret. Bon, ben voilà, nous, un nageur, il fait du 50 crawl ou du 100 mètres d'eau. Ben, il se prépare pour ça, il va aller en compétition, et il sait qu'il va avoir son 50 à faire et voilà, c'est plié, quoi. C'est pas pareil si finalement on arrive à une compétition et on tire au sort les épreuves dans lesquelles on va s'élancer. Juste ça, bon, voilà, c'est vraiment un truc dérisoire, mais ça pourrait générer chez les sportifs une capacité à s'adapter, à se transformer de façon profonde, finalement. Et c'est vrai que les Américains, pour revenir à eux, finalement, ils connaissent cette excitation, cette mobilisation lors de leur sélection, leurs trials, qui se déroule souvent 3 semaines ou 1 mois avant les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Ce qui fait qu'après, quand ils vont, paradoxalement, quand ils vont aux Championnats du Monde ou aux Jeux Olympiques, c'est comme une redescente pour eux. C'est comme s'ils redescendaient une petite pente et les choses redeviennent très faciles. Pour nous, c'est l'inverse. Pour nous, on arrive au championnat de France, on connaît nos adversaires, ils sont toujours les mêmes. Voilà, on sait ce qu'on va faire le matin, on va gérer, on sait ce qu'on va faire l'après-midi. Et voilà, puis après, on arrive au championnat du monde et waouh, on est parachuté là sur le grill et tout est nouveau, tout est inédit. Voilà. Et ça, c'est trop complexe pour un sportif quand il n'y est pas préparé, quoi. Voilà. Donc, et encore une fois, le lien qui est fait entre nos représentations les plus physiologiques de l'entraînement et la gestion de ses comportements le jour J, il n'est pas évident, quoi. Il n'est pas évident.
Là, si je pouvais donner un conseil par à toi, évidemment, aux sportifs amateurs qui nous écoutent, et surtout les coureurs à pied, c'est que si vous avez l'opportunité, mais ça rejoint ça, hein, d'aller vous entraîner de temps en temps avec quelqu'un de plus fort que vous, ou un groupe plus fort que vous, c'est ça aussi qui fait progresser. Et même si vous n'avez pas respecté votre zone physiologique le jour J, la séance d'après, vous ferez un peu plus piano pour que ça récupère, mais c'est assez frappant. Hein. Moi, je le fais de temps en temps, je vais courir avec des gens que je coach qui courent beaucoup plus vite que moi sur des séances au train. Ah ouais, tu t'accroches hein, pendant la séance, mais tu arrives à en retirer quelque chose derrière qui est fondamental. Alors là, on ne parle pas de haut niveau, hein, mais je donne aussi, vu que le podcast est un peu généraliste, et je pense que finalement, l'apprentissage et la progression, elle ne passe pas uniquement par le respect des valeurs physio. C'est juste des moyens, des garde-fous, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et encore plus maintenant, où la sensation, on peut essayer d'en parler avec le RPE, maintenant tout le monde veut objectiver le RPE, enfin, objectiver la sensation, etc., etc. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Il y a juste besoin de se dire qu'est-ce qui m'attend le jour J, et j'apprends à faire face à un petit peu toutes les situations. Et après, je vois bien comment ça va se passer. On arrive un petit peu en fin d'émission et j'ai une question à te poser parce qu'on me la pose souvent et je botte toujours en touche. J'ai pas mal de gens qui me suivent et qui entraînent en natation ou qui font de la natation et qui me demandent, et je te jure c'est vrai, je sais pas quoi répondre. Est-ce que tu penses que de faire des footings pour la natation, c'est intéressant ou pas? Et vu que je me suis jamais penché parce que j'ai pas été confronté avec des nageurs, j'ai pas la réponse. À part leur dire que pour l'ostéopéro, ça fera peut-être du bien, mais c'est la seule voie que j'ai.
Alors moi, je pense que c'est bien. Alors, c'est vrai que les nageurs, il n'y en a pas beaucoup hein, qui savent courir. Ouais. Parce que justement, on les a extraits de la terre, justement, et on leur demande régulièrement de se débarrasser du réflexe de terrien. Ouais. Et donc, ils ne sont plus vraiment soumis donc, à la pesanteur, au choc, etc., etc. Donc, c'est vrai que du coup, le nageur court peu, on va dire. Il n'est pas très à l'aise toujours sur terre, à part quelques individus. Et c'est bien dommage, en fait. Ma réponse, elle est là. C'est-à-dire que celui qui sait courir, je pense que ça peut être une bonne chose que de remplacer une séance dans l'eau par un bon footing, pour plein de raisons. La première, c'est un petit peu en liaison avec ce que l'on a dit là dans cette conversation, c'est-à-dire que, ma foi, nager, faire des allers-retours pendant 1 heure au seuil aérobie, pour avoir la caisse, entre guillemets, il n'est pas certain qu'il y ait un rapport absolu avec le fait d'être capable de nager plus vite, tout simplement. Et même de tenir pendant 2 minutes pour un 200 mètres crawl, par exemple. Donc, à ma foi, le cœur, qu'il soit dans l'eau, qu'il soit en forêt, ce sera pareil. Ce sera pareil et ce sera peut-être mieux en forêt pour le coup, parce que ma foi, courir dans la nature, voir passer un écureuil, dire bonjour à quelqu'un qui court dans le sens inverse, c'est peut-être plus sympathique à ce moment-là que de compter les carreaux pendant 1 heure dans l'eau. Et ensuite, peut-être qu'on arme un petit peu le corps, tous ces micro-chocs, cette cheville qui doit s'adapter, là, si on court en forêt, un petit peu entre les cailloux, le plaisir de rebondir tout simplement. De se reconnecter sensoriellement de façon olfactive, de façon diverse avec l'environnement. Moi, je n'y vois que des points positifs, vraiment, en termes d'apprentissage, en termes en termes social. Je pense que c'est une bonne chose. Alors après, si on ne sait pas du tout courir, qu'on s'y met du jour au lendemain de façon un peu frénétique, peut-être qu'on va, on va se blesser. C'est souvent la crainte des coachs et des nageurs, c'est de se blesser en ressortant de l'eau. Mais si, ma foi, on sait courir, qu'on aime ça, je pense qu'il faut, il ne faut pas s'en priver, quoi. Et c'est peut-être au moins aussi valable qu'une séance passée dans l'eau à des allures basses qui ne seront pas forcément très utiles, quoi. Et quand des triathlètes me posent la question, des triathlètes qui, en plus de leur vélo, en plus de leur course à pied, veulent absolument bouffer du bassin, je leur tiens le discours inverse. Je leur dis non, mais c'est bon, vous avez fait ce qu'il fallait à vélo, vous avez fait ce qu'il fallait à course à pied. Dans l'eau, faites pour le coup que ce dont vous allez avoir besoin, quoi. Créer de la vitesse, travailler votre mobilité spécifique dans l'eau. Le reste, vous allez vous en occuper ce soir quand vous allez prendre votre vélo. Donc, voilà, être capable de jongler et de travailler de façon opportuniste ce que l'on a à travailler dans le meilleur environnement, je pense que ça, c'est amener de la finesse dans sa préparation.
Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit, où le cœur, c'est le même dans l'eau. Bon, il y a l'horizontale ou la verticale, mais la physio, elle se travaille différemment partout. Et peut-être que oui, c'est une petite forme de renforcement hein, pour un nageur de courir, comme tu le disais. Et là où ça, si je résume un petit peu, parce que c'est un jeune entraîneur qui m'a posé la question et qui a des jeunes. Et finalement, est-ce que dans ce process de formation depuis tout jeune, au lieu de attention, hein, je pèse mes mots parce que je ne suis pas là-dedans, mais au lieu de les foutre continuellement dans un bassin, de se dire, bon, on maintient un footing une fois par semaine dans votre formation, parce que comme ça, vous allez pouvoir le garder toute votre vie et toute votre carrière de nageur. Est-ce que c'est peut-être une voie qui est intéressante, plutôt que de tout abandonner et de se retrouver à 20 ans et dire, ah ben, moi, je ne peux pas aller courir parce que si je cours, je vais me péter.
D'accord. C'est vrai qu'au-delà de la richesse qu'on pourrait trouver dans, je ne sais pas moi, notamment chez les jeunes, le fait d'augmenter comme ça une sorte de réserve motrice parce qu'on va faire un peu de basket ou un peu d'escalade ou de la course à pied, au-delà des avantages que l'on pourrait récupérer dans l'eau, c'est le fait qu'effectivement, il y a une vie après la natation et cette vie commence très tôt parce que la natation est un sport où on excelle assez jeune. Ça pourrait permettre à des individus de rester sportifs au-delà de leur vie de nageur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ne pas renoncer à courir ou à faire du ski. On n'aime pas le ski aussi parce qu'on a peur de se blesser, on a peur du vrai bobo. Mais, ma foi, conserver ce risque-là, conserver des compétences que l'on a acquises étant jeune, à courir, à faire du vélo, à jouer au basket, quand bien même on est nageur de haut niveau, je pense que c'est le meilleur conseil que l'on peut donner à tous ceux qui se trouvent une passion dans la natation et qui s'y mettent et qui ont l'impression que pour pouvoir progresser dans ce sport, il ne faut plus faire que cela, quoi.
C'est des sages paroles de fin et je pense qu'ils peuvent être applicables à beaucoup de sports, et notamment les sports individuels par rapport au sport co, parce que le sport co est un jeu permanent, donc c'est un peu différent. Je connais personne qui se lasse du foot ou du basket, mm-hmm. ou très peu de gens. Je connais beaucoup plus de gens qui se lassent de la course à pied, du ski ou de plein de choses comme ça, mm-hmm. parce que peut-être l'environnement a été trop structuré et spécifique trop tôt.
Tout à fait.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice. Franchement, c'était un régal. Alors, comme d'hab, ça a duré plus de 30 minutes. De toute façon, ma ligne éditoriale a changé sur le coup, mais je me suis vraiment éclaté. Et moi, ça me plaît. Les gens ne seront pas surpris. On n'a pas beaucoup parlé de technique d'entraînement. Finalement, on a plus parlé de progression, d'humain et de coaching. Et moi, j'ai vraiment pris du plaisir.
Ben, c'était partagé. Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un exercice, en fait, qui est précieux de pouvoir structurer sa pensée, répondre comme ça à des questions que l'on ne se pose pas volontairement ou involontairement soi-même. Donc, merci beaucoup.
Eh bien, allez, au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.